La Stammtische, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello Daniel, hello Cyril, hello Laurent, bienvenue à la Stammtisch. Je vous offre un mojito, on se lâche aujourd'hui, c'est bon, c'est les vacances. Qu'est-ce que je vous sers d'autre, Daniel ?
Vin rouge, s'il vous plaît.
Ça marche, parfait. Cyril ?
Moi je reste avec ce mojito, je pense qu'il se suffit à lui-même.
Ok, Laurent ?
Alors moi je vous offre un gâteau d'anniversaire avec 50 bougies dessus, hein, on va... Faut le dire, hein, hier, Cyril a changé de décennie, hein, il a rejoint... Rejoint Daniel Villard dans la belle équipe des quinquagénaires. Bravo Cyril, félicitations.
J'avais prévu ça dans l'intro qui suivait, mais disons-le maintenant. Joyeux anniversaire Cyril. Hein.
Merci beaucoup.
Là j'arrive dans 5 avec tout ce qu'il faut et avec les 50 bougies. Bonjour à toutes et à tous, place au dernier épisode officiel de la saison 4 de la Stammtisch. On tire le bilan aujourd'hui, les bilans. On va passer en revue tout ce qu'on peut repasser en revue, de nombreux points au programme. On est en compagnie, évidemment aujourd'hui, vous l'avez compris, du CIO du HCBN, Daniel Villard. Salut Daniel.
Allô.
Tu vas bien ?
Oui, pas mal, merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La Stammtisch, c'est aussi... Évidemment, à l'aile gauche, Cyril Pache, journaliste à Sport Center. Salut Cyril.
Salut tout le monde.
Et à l'aile droite, Laurent Kleissel, rédacteur en chef du journal du Jura. Salut Laurent.
Bonjour tout le monde.
La logique voudrait qu'on commence ce bilan par l'actu chaude, qui est maintenant peut-être un peu plus tiède avec les quarts de finale, mais il n'y a aucune logique dans l'épisode du jour. On va revenir peut-être... Allez, il y a une logique un peu chronologique sur toute la saison. Donc on va commencer par remonter la ligne du temps, par retourner au 31 août 2023... Bien Kozice, premier match officiel, c'était la Champions Soccer League. Daniel, on va parler de Ligue des Champions. Question très simple, qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième expérience européenne du HCBN ?
Oui, c'était encore une fois très intéressante dans tous les niveaux pour notre organisation. Donc niveau organisation du match, là il y a beaucoup des choses qui sont... voulu au part du bureau du Champions Hockey League, donc beaucoup des choses qu'on doit faire, beaucoup plus pour un match régulier dans notre championnat. Et puis niveau sportif, je pense que c'est aussi très intéressant toujours de jouer contre des équipes qu'on connaît pas, et puis des équipes qui sont vraiment très fortes. Alors c'était, je pense, une bonne expérience pour tout le monde au HCBN, pas seulement pour les joueurs.
T'as un exemple ? Qu'est-ce que vous devez faire en plus qu'un match de championnat ?
Ouais, il y a beaucoup de choses à voir, par exemple pour la transmission du télévision, beaucoup des détails qui sont beaucoup plus compliqués que normal.
Ok. Quand on fait un bilan, forcément, il y a le point de vue sportif et le point de vue financier. Alors, je te pose les deux questions à la suite. Est-ce que c'est une expérience intéressante d'un point de vue sportif selon toi ? Et est-ce que c'est intéressant d'un point de vue financier ?
Niveau financier, c'est toujours un peu... la question contre qui on joue, est-ce que c'est possible de faire les voyages en bus ou en vol ligne, ou est-ce qu'on doit faire un charter? Malheureusement, cette saison, on a dû faire deux fois un charter et ça coûte très cher. Alors, à la fin, on peut dire que c'était 0-0, donc pas de perte, mais pas de business aussi.
Puis niveau sportif, on a vu un Genève pas en play-off, c'était Rapi pas en play-off, bien jusqu'au quart. Ça peut aussi un peu fatiguer l'équipe dans une saison bien remplie.
Oui, absolument. Je pense qu'on a vu, comme tu dis, aussi les autres équipes. C'est vraiment... c'est pas facile de faire tous les voyages, tous les matchs supplémentaires. Et puis le calendrier qui est quand même très, très sévère aussi dans la saison normale.
Cyril, Laurent, votre impression sur la Champions Soccer League ? C'est toujours sympa, quelquefois, que Bien se qualifie pour voir un peu autre chose ?
Alors, moi, j'apprécie beaucoup quand Bien est engagé ou les équipes suisses. C'est vrai qu'après, je suis pas forcément le... C'est pas un championnat, une compétition que je suis assidûment quand il y a des équipes suisses. Et pour Bien, c'est vrai que c'est très intéressant, surtout quand il y a des équipes finlandaises et suédoises. On compare toujours le championnat de Suisse comme celui qui a les meilleures conditions économiques, le plus de spectacles, le jeu le plus attractif. C'est intéressant de voir, on dit toujours que c'est le meilleur championnat en Europe après la KHL. C'est toujours intéressant de voir contre des nations historiques du hockey, contre des clubs solides. J'aime bien cette confrontation. Et puis, Daniel parlait de la fatigue pour l'équipe, mais je pense aussi que les voyages à l'extérieur pour le management, c'est assez fatigant, à mon avis. Hein.
Oh, ça va, c'était très intéressant de voir tes autres patinoires aussi. Oui, c'est clair, le premier voyage, là, on a aussi un peu fêté encore. Après les matchs, c'était aussi très positif, oui.
Et Cyril, en tant que journaliste lémanique, tu fais partie de quel camp ? C'est un joli titre pour Genève, c'est une belle histoire ou ça reste anecdotique pour toi, la Ligue des champions en hockey ?
Non, bah ça reste une compétition de niche hein, qui intéresse un nombre restreint de personnes, on va dire. Mais la victoire de Genève, le parcours de Genève a certainement mis un bon coup de projecteur sur la Champions Hockey League. Et c'est possible qu'à l'avenir, les gens en Suisse s'y intéressent peut-être un peu plus. En tout cas, pour les joueurs, je pense que c'est toujours une bonne expérience. J'ai rarement eu des retours négatifs. Je crois qu'ils aiment... Ils aiment jouer cette CHL et puis voilà, mais ça reste, c'est difficile à prendre, à intéresser autant de monde que le championnat national en fait.
On va pas s'éterniser sur la Champions Hockey League. Encore juste une question, le grand changement cette saison, c'était au niveau du règlement. Si on marque en box play, le coéquipier peut rentrer. C'était l'inverse que ce qu'on a l'habitude. Ça devrait en rester là, ce ne sera pas une règle qui sera importée dans le championnat de Suisse la saison prochaine, Daniel.
Non, je ne crois pas. Moi, je n'étais pas personnellement très fan de ça. Et puis, je ne pense pas que ça va changer.
Très bien. On poursuit sur le fil de la saison. Donc, le début, la Champions Hockey League, ensuite la saison régulière. Énormément de blessés, énormément d'annonces de départ aussi pour ces mois de octobre, novembre. Ça, on va peut-être en parler dans un épisode bonus. Si tout se passe bien, on a encore un épisode cette saison qui viendra dans deux semaines. Mais on va passer directement avec toi, Daniel, à l'autre grand thème, c'est les entraîneurs. Les entraîneurs, on a appris à les connaître gentiment, Petri Matikainen, Juha Vuori. Ils étaient peut-être déjà en danger aux alentours du mois de décembre. Finalement, suite aux bons résultats de 2024, ils sont restés jusqu'à fin février. Est-ce que aujourd'hui tu restes convaincu que Petri Matikainen, Juha Vuori, c'était vraiment deux personnes compatibles avec le HC Bienne?
Oui, je suis persuadé de ça. Et comme j'ai aussi dit dans d'autres médias déjà, je pense pour n'importe quel entraîneur, c'était vraiment presque une mission impossible cette saison après ce qu'on a eu la saison dernière, après la longue travail de Antti Tuominen. C'était vraiment très, très compliqué. Et après, surtout aussi avec beaucoup de blessés, comme tu as dit, il a presque chaque match eu un autre alignement. Et puis, ouais, c'était très, très compliqué pour les deux.
Dans la double page du journal du Jura de mercredi qui passe en revue l'effectif sélandais, Christian Kobi a écrit au sujet de Petri Matikainen « Ses méthodes dépassées et autoritaires n'étaient pas compatibles avec une équipe d'artistes sensibles. La question du pourquoi de son engagement restera à jamais un mystère. » Tu partages cet avis-là, Cyril ?
Alors, c'est un peu une question piège là, pour moi. Non, bah, c'est clair que nous, on a une vue de l'extérieur. Daniel a côtoyé justement les deux entraîneurs finlandais de près, donc c'est clair qu'on a une perception qui est différente. Ce que je retiens moi aussi, c'est enfin mon sentiment vu de l'extérieur, c'est que en effet, c'était pas un duo d'entraîneurs ou en tout cas un entraîneur principal qui collait très bien avec cette équipe-là, ou en tout cas la cassure était trop grande par rapport à ce qui avait été fait avant. Mais voilà, aussi ce qui est vrai, comme Daniel vient de le souligner, c'est que il arrivait un peu dans une situation où il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Il y avait eu tellement de succès juste avant lui que c'est difficile de faire en tout cas aussi bien quoi. Après, voilà, vu de l'extérieur, non, c'était pas quelque chose qui a bien fonctionné. On l'a vu finalement à la fin, ben voilà, il y a eu un licenciement. Mais est-ce que ça aurait été différent c'est dans d'autres circonstances? Ah ben, on ne le saura jamais. Voilà.
Mais pour toi, Daniel, tu restes convaincu qu'il avait la bonne personnalité au niveau social? Ça aurait pu matcher?
Oui, absolument, parce que c'est clair qu'on a aussi beaucoup parlé avec nos joueurs et puis aussi avec des joueurs, comme tu as dit, un peu les Krunschler. Puis là, on a eu toujours des bonnes réponses, des bons feedbacks, donc... C'était vraiment jusqu'à la fin, là, peut-être il a un peu perdu la vestiaire les deux dernières semaines, mais avant, c'était vraiment toujours clair pour les joueurs que c'est pas le problème de l'entraîneur.
Ok, très bien. Si on reste sur ce thème-là de l'entraîneur, on va parler forcément du licenciement et ensuite de l'intérim assuré par Martin Steinegger et Anders Olsson. Ça, c'est un choix logique, une décision rapidement prise.
Oui, là, on n'a eu pas le temps de chercher encore un entraîneur qui connaît pas les joueurs. Donc, on a décidé dimanche et puis lundi, c'était premier entraînement. Et puis, c'était absolument clair que c'est que Stony et puis Anders sont notre solution.
Et on arrive maintenant à la question que tout le monde se pose pour la saison prochaine. Hier soir, à la rencontre de fin de saison, j'ai posé quelques questions à Patrick Stalder, co-président du HC Bienne. Il a dit qu'il fallait trouver l'entraîneur parfait et que visiblement, Stony n'était pas l'entraîneur parfait vu qu'il a perdu 4-0 en quart de finale contre Zurich. Stony lui-même avait sorti une réponse à peu près similaire après l'élimination. Sérieusement, Daniel, c'est une option, Martin Steinegger, entraîneur?
Je pense qu'il a la capacité de faire ça. Ça, je suis persuadé, il peut faire ça, mais pour moi personnellement, il est trop important comme sportchef, comme general manager. Et puis pour moi, c'est clair, il faut trouver un autre entraîneur.
C'est aussi ton avis, Laurent?
Oui, puis c'est toujours le fun de voir Martin Steinegger à la bande, parce qu'il y a le spectacle sur la glace, puis il y a le spectacle sur le banc, parce que il faut cette personnalité qui occupe l'espace, hein, que ça soit avec les médias après, il est. Je pense que son charisme est décuplé quand il endosse joie de Daniel qui sourit, mais je pense qu'il est d'accord avec moi, il prend encore plus de place quand il porte tout le poids du club. Je pense que ces derniers mois, il a dû dormir 2 heures par jour. Il est quoi, là? Il est parti sur une île, là, maintenant, il est off. Je pense que ça doit être ça, quoi. Mais moi, j'ai une question à poser à Daniel, justement, pour la succession. Succession, on ne remplace pas, on succède à Martin Steinegger. Selon mes informations, Matikainen était le candidat numéro 2 et que c'était Tommy Niemelä qui était le candidat numéro 1 pour, au mois de l'été dernier pour succéder à Tormelon. Est-ce que c'est juste, c'est quelque chose qui tourne un petit peu dans les coulisses?
Non, c'est pas juste. On a invité 5 entraîneurs pour une meeting personnel. Et puis, 2, ils ont retiré en principe leur candidature. Un, c'était M. Tapola qui a signé à Berne. Mm-hmm. Et puis l'autre, c'est
Niemelä.
Parce qu'il a pas eu. Il a encore eu un contrat pour cette saison et puis il n'a pas reçu la Freikarp. Et puis pour ça, c'était pas un candidat.
Mm-hmm. Ce serait un candidat pour cette saison? Ou il a déjà un engagement?
On n'a pas encore parlé, je n'ai même pas vu les dossiers qui sont rentrés, donc on va commencer la semaine prochaine avec cette discussion.
Quand Stony sera revenu de son île, quoi.
Mais tu dis non pour Martin Steinegger à la bande parce qu'il est trop important en tant que directeur sportif. Tu disais à nos collègues, confrères de Flip Pass, le podcast alémanique, que le double mandat directeur sportif-entraîneur, c'était exclu.
Oui, ça c'est clair pour moi. Parce que c'est beaucoup trop et c'est pas faisable dans ce niveau qu'on a dans cette ligue maintenant.
Mais si Martin Steinegger, il vient à votre entretien et qu'il dit « Moi, je veux devenir entraîneur, ma foi, trouver un autre directeur sportif, enfin, on va trouver ensemble un autre directeur sportif », c'est quand même possible?
Oui, c'est possible, c'est clair, mais c'est mon opinion personnelle que c'est pas la bonne idée.
Très bien. Et sinon, le profil recherché, il ressemblerait à quoi? Forcément, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a de l'expérience aussi pour intégrer des jeunes dans le monde professionnel.
Oui, ça aussi, on va discuter. Je pense qu'il faut un peu adapter à la saison dernière parce qu'il y a quand même, on a fait des expériences. Et puis, on a un peu une équipe différente la saison prochaine. Pour ça, il faut un peu changer peut-être le profil. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore tourner des détails. C'est vraiment une discussion qu'on va faire, je pense, mercredi prochain.
Et Anders Olsson qui est parti, qui s'est engagé avec Turgovis, ce n'était pas une option. Ce n'était pas une surprise de le voir s'engager en Swiss League.
Non, là, on était toujours très ouverts aussi avec lui. Je pense qu'il est un très, très bon formateur, mais pour moi, il n'est pas, il n'a pas le profil idéal pour ce qu'on a besoin la saison prochaine comme chef.
Est-ce que Cyril Pache a le profil idéal? T'as pas déposé ton dossier, Cyril?
Non, malheureusement, j'ai pas fait les cours d'entraîneur, donc je pourrais pas mal. De toute façon.
Oliver David, enfin, tu dis, t'as pas encore de vue sur les dossiers, tu sais pas combien vous en avez reçu?
Non. Okay. Je sais qu'il y a beaucoup, mais je connais pas les noms et puis pas la chiffre exacte.
Parce que Oliver David, qui est parti, lui, en Autriche, il dispute la demi-finale avec Salzbourg, il se rapprocherait d'un profil qui pourrait matcher?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il a un contrat encore pour la saison prochaine, je pense.
Il faut engager un entraîneur, un assistant ou un entraîneur et deux assistants. C'est quoi les plans pour l'HC Bienne? Il y a aussi Beat Forster dans l'équation.
Non, on a besoin d'un entraîneur en chef et puis un assistant parce que, oui, comme tu dis, Beat Forster, il est notre deuxième assistant.
Ok, ça c'est acté. Beat Forster, deuxième assistant la saison prochaine.
Oui.
Ce sera quoi son rôle exactement? Qu'est-ce que vous attendez de lui?
C'est clair, il va aussi un peu avoir la rôle de faire l'intermédiaire entre les juniors et puis la première équipe. Donc il va beaucoup travailler avec les jeunes joueurs et puis le reste, il faut après voir avec le nouveau head coach.
En principe, il y aura un entraîneur et deux assistants sur le banc lors des matchs la saison prochaine, comme ça se fait dans d'autres équipes.
Ça, c'est l'idée, oui.
Très bien. Messieurs, vous avez d'autres questions sur ce dossier important des entraîneurs? On passe déjà à la suite.
Oh, il faudrait trouver quelqu'un, un entraîneur, je ne sais pas, 1m88, 100 kilos, des cheveux à la Beethoven, encore bien brun, qui a du charisme. On ne peut pas cloner Martin Schweinegger, vous n'avez pas encore trouvé un truc hein. Une saison avec Martin Schweinegger, j'avoue que ce serait le fun. Mais c'est vrai je pense qu'il est trop précieux pour le club dans sa position actuelle. Il a aussi bonne presse dans le milieu, dans les joueurs, près des autres directeurs sportifs, c'est quelqu'un très respecté. Et puis pour l'image d'un club, c'est important. On l'a vu avec Lausanne ces dernières années, quand il y avait des problèmes à la direction sportive avec Monsieur Svoboda, ça a totalement entaché l'image du club. Martin Schweinegger, c'est une image parfaite pour l'HC Bienne. Je pense pas que Daniel va me contredire. Remplacer Martin Schweinegger, je pense que déjà engager un entraîneur, c'est prendre un risque. Mais mettre Martin Schweinegger comme entraîneur et engager un directeur sportif, c'est prendre deux risques la même saison. C'est surtout après la saison qu'on vient de vivre. Là, on a plus besoin d'un peu, on va dire, un peu retomber, d'un peu plus de retrouver cette routine qui va tellement bien au HC Bienne. Je pense que ce serait quand même un peu trop pour la même saison.
C'est ton avis aussi, Daniel, ce serait trop.
100% d'accord.
C'est beau. Alors, on continue le passage en revue de cette saison. Là, on était sur le dossier entraîneur suite au licenciement fin février. On avance un petit peu. Donc, Martin Schweinegger a réussi à qualifier finalement le HC Bienne pour les play-in, in extremis. Ça aurait été une catastrophe financièrement et sportivement si Bienne avait arrêté sa saison après 52 matchs.
Pas une catastrophe, je dois dire, ça peut arriver au sport. On a vu Rapperswil qui était troisième la saison dernière. Ils sont terminés après la tour qualification. Ça peut arriver, mais c'est clair, c'était pas bien niveau finance, niveau, je pense aussi un peu de l'image de notre club et puis aussi pour tous les apports pour la saison prochaine. Je pense que c'était vraiment important qu'on a fait encore les play-in et puis aussi les play-offs.
C'est ça. Si la saison, elle s'était arrêtée à ce moment-là, vous vendez moins d'abos, peut-être aussi moins de sponsors ou ça pas?
Oui, c'est clair. Ça aide toujours si on a un peu de succès.
On va passer au play-in, du coup, format aller-retour. Le retour chez le mieux classé, la différence de but ne compte pas. Il peut y avoir match nul aussi. On en a déjà parlé beaucoup ici de ce format-là des play-in. Cyril, toi, tu étais assez critique sur ce format. Tu te questionnais sur l'utilité du match 1. Tu préconisais d'ailleurs un best of one, un seul match chez le mieux classé. Pour toi, Daniel, ce format-là, il est convaincant ou bien pas?
Niveau des finances, non, parce que tu as pas un match à la maison, peut-être. Et puis, ça, c'est clair, c'est très important. Au niveau des finances, alors, je sais, il a beaucoup, c'est 4 matchs dans une semaine, c'est beaucoup. Et puis, on a vu, peut-être, c'était aussi un peu le problème après dans cette série contre Zurich. Mais à la fin, c'est quand même mieux que le pre-playoff qu'on a fait avant, qu'on a eu cette fameuse expérience, qu'on a eu 22 points de plus que Rapperswil, et puis dans 2 matchs, tu es out. Et je pense que c'est mieux maintenant.
Donc en principe, la saison prochaine, même chose, play-in.
Oui, c'est prévu comme ça, oui.
Ok, très bien. Bienne, qui est donc l'équipe qui s'en est sortie après les 2 tours de play-in, qui a éliminé Genève, qui a éliminé Ambry ensuite. Et puis, tu le disais, vous avez enchaîné directement avec les play-offs face à Zurich, qui a eu 12 jours de vacances. Ça peut faire une différence, en tout cas sur la longueur. Le mieux, ce serait en tout cas de décaler, de faire que l'équipe qui passe 2 fois par les play-in joue le dimanche, au deuxième jour des play-offs. Déjà ça, ce serait une petite différence
Oui, ça, logique. Ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi c'était pas comme ça. Et puis ça, je pense qu'il faut discuter. Et puis ça, on peut aussi très vite changer, je pense.
Et on passe directement au bilan des play-offs. D'abord sur le système. Pour l'instant, cette année, les quarts de finale, c'était encore un match chaque soir. Et en demi-finale, ça s'arrête. C'est toutes les demi qui se jouent la même journée. Ça aussi, c'est aussi pour des questions financières, mais ça devrait rester et c'est intéressant pour toi.
Oui, c'est surtout la télévision qui veut ça, c'est clair, parce que ça, dans cette configuration, ils ont chaque soir un match. Ça, c'est clair, c'est très important pour MySports, mais pour la planification, pour les clubs, c'est très compliqué parce que toutes les dates sont bloquées. Et on a quand même aussi à la Tissot Arena beaucoup des demandes pour des choses autour du hockey. Puis ça nous bloque pendant presque un ou deux mois de faire des events. Je pense que ça, c'est vraiment un peu le problème. Et pour ça, on a changé. On a dit OK pour les quarts finales, mais pas pour la suite.
OK, ça aussi, c'est maintenant le format idéal pour continuer.
Idéal, non, mais il y a toujours des... Ouais, il faut des fois prendre des choses qui ne sont pas optimales, mais le contrat télévision est assez important pour tout le monde. Alors, il faut accepter des fois des choses qui sont pour les clubs pas optimales.
Ça rapporte combien au HC Bienne, la télévision?
Ouais, c'est un montant très très important, presque 2 millions par année.
Laurent, tu voulais intervenir? Moi, j'avais une question pour toi, mais avant ça...
Oui, ben, en tant que téléspectateur, tant que la chaîne n'est plus là, c'est vrai que c'est intéressant tous les soirs se dire, on allume la télé, quel match on se regarde. Ah ben tiens, il y a Davos, ah ben tiens, il y a Berne. Là, je pense, en simple consommateur de télévision, je trouve que c'est le format intéressant. Mais après, c'est vrai que c'est pas optimal pour les clubs, point de vue organisationnel. C'était quoi ta question?
C'est à cheval sur aussi un peu le thème télévision, mais c'est pour toi parce que ça s'est apparu en play-in, je crois déjà. En tout cas, ça se continue en play-off. Qu'est-ce que tu penses des Power break.
Mais franchement, je sais pas si on a besoin de ça en Suisse. Aux États-Unis, moi qui regarde beaucoup de NHL, c'est des vraies pauses publicitaires. Là, ça aide aussi parce qu'il y a quand même des stars. Il y a l'échelle salariale entre la star qui gagne 10-12 millions par année et les 3-4e lignes à 1 700 000 dollars. Il y a un énorme écart entre les stars et les autres. Les gens veulent voir les stars. Pour que ces stars puissent jouer, il faut qu'il y ait ces power breaks qui servent aussi à ça. Romagnosi ne jouerait pas 25 à 28 minutes par match sur 82 matchs s'il ne pouvait pas souffler pendant 3 minutes. C'est pénible. NHL, c'est pénible. En Suisse, je ne sais pas, c'est tellement court. C'est quoi, c'est 30 secondes
45 secondes.
45 secondes. 45, une fois par tiers. Donc
ouais. Franchement, moi, je vois pas. Ouais, si ça reste comme ça, ça va encore. Quoi. Je pense que tout le monde peut, les clubs y gagnent, là, on peut reposer les joueurs. Là, voilà. Après, il faut faire très attention quand ils tombent ces power breaks, hein, pas que ça soit avec des phases de power play, etc. Il faut être très finaux parce que si on fait un power break avant un power play de 2 minutes, ou bien au milieu d'un power play, c'est pas très au niveau de l'éthique sportive. Je pense qu'il y a des règles qui ont été mises en place pour ça, quoi, parce que ça peut tourner un match, quoi. En Suisse, ça reste minimum. Si on pouvait s'en passer, je serais content. Quoi.
Mais ça reste, c'est vrai, un par tiers au milieu du tiers et c'est 45 secondes. C'est quelque chose de tout à fait correct pour toi, Daniel?
Oui, mais là aussi, il faut dire que c'était un peu le compromis parce qu'on a dit on ne veut plus le splitting dans les demi-finales et puis la télévision a dit OK, mais pour ça, on veut quelque chose en retour et puis on a dit OK, on peut faire ces power breaks. Alors, c'est un peu le deal. Et puis, ça va rester comme ça. Et puis, je pense, ouais, ça ne gère pas trop. Pour moi, personnellement, c'est plus négatif quand les arbitres sont devant leur petit screen et ils essaient de voir quelque chose pendant 3 minutes.
Très bien, mais on peut directement enchaîner avec ça. C'était pas prévu, mais il y a la Blic qui a révélé que des caméras avaient été testées sur la ligne bleue à Bienne en partenariat avec Swiss Timing. Ça en est où, ce projet-là?
Oui, ils ont testé plusieurs fois et puis ça fonctionne très bien. Et puis maintenant, il faut voir avec la Ligue et aussi avec les autres clubs. Mais malheureusement, c'est pas pour tout le monde la priorité. Alors, je ne sais pas si on a vraiment une chance de installer ça.
Au niveau financier, ça coûterait combien par club, ce système, par année?
Je connais pas les détails, mais c'est un montant assez bien. Et puis, c'est clair, sur 14 équipes, ça fait quand même... une somme énorme.
Mais si c'est quelques 10, je sais pas, c'est 10, 20 000 francs pour une saison pour des clubs qui ont des budgets de 15, 20,
ouais, je pense que c'est plus que ça.
Plus quand même. Ouais. Mais ça, je pense que c'est...
Mais il faut discuter et puis voir
Toi, personnellement, en tant que HC Bienne, tu fais la promotion de ce...
On a toujours fait, oui, déjà beaucoup des années. On a dit, si on a ce fameux Coaches Challenge, et puis après chaque deux fois, et puis une fois tu vois pas, à la fin, c'est vraiment pas optimal pour le produit. Il faut changer ça, mais... C'est toujours clair, si tu as comme club pas de problème pendant une saison, c'est pas la priorité. Et puis si tu as comme nous aussi cette saison deux ou trois fois le problème, tu vois un peu différent.
On entend le store qui se ferme en arrière-fond, le store qui se rouvre, on a de nouveau de la lumière, c'est parfait. Donc il y a une chance, mais minime, que ça apparaisse la saison prochaine, ces caméras.
Ouais, c'est minime, ouais.
Ok, parfait. Si on continue le... déroulement de la saison, on arrive enfin à l'actu tiède, à ces quarts de finale face à Zurich. T'as quel sentiment aujourd'hui, Daniel? Quand même fier d'avoir atteint ces playoffs, d'avoir vécu de belles émotions au mois de mars, d'avoir aussi vécu 4 matchs d'après-saison, c'est pas négligeable pour le budget, ou t'es frustré du déroulement de cette série encore?
Ouais, je suis un peu frustré parce que je pense les deux matchs à Zurich, là on a vraiment bien joué, surtout le match qu'on a perdu en prolongation là... C'était très, très dur de perdre. Oui. Alors, je pense 4-0, c'est vraiment... Ah, ça fait mal.
On va un peu remuer. Il y a eu un but, c'était l'égalisation, je crois, à quelques secondes de la fin, ce fameux match qui a fini en prolongation. T'en penses quoi, Daniel Villard? Ce but était valable?
Il y a deux buts. Hein. Il y a le genou et puis après, il y a la canotte.
Le genou. C'est surtout le genou. Là, qui...
Oui, pour moi, c'est clair. Les deux buts ne sont pas valables.
Il n'y a aucun but de Zurich qui était valable, en fait, pendant cette série.
Oui, presque.
Cyril, on a vu un Zurich quand même compact, bien organisé, solide. Forcément, ils ont une belle profondeur aussi. C'est l'équipe favorite pour toi en play-off actuellement?
Oui, c'est les favoris. C'est la meilleure équipe. Je pense qu'il y a peut-être une équipe qui peut les battre, c'est Fribourg. Mais sinon, je ne verrai pas qui. Mais je pense quand même qu'il y avait un coup à jouer pour Bienne en quart. Mais de nouveau, il aurait fallu pour ça gagner peut-être ce premier match à Zurich. Faire mieux, je crois que c'était quoi, le troisième, voilà, défaite en prolongation, ça se joue. Les trois premiers matchs se sont joués à très peu de choses, et puis, voilà, il y avait peut-être un coup à jouer, c'est dommage, mais non, ça reste les favoris.
Mais donc, selon toi, Fribourg va éliminer Lugano?
Oui, alors je pense que Fribourg va passer, mais c'est clair qu'ils ont une pression énorme, hein. Les attentes là-bas sont... Enfin, le titre est attendu depuis tellement longtemps que chaque année, ses attentes augmentent. Et puis, c'est clair, pour une équipe, c'est pas facile. Quoi.
On enregistre jeudi midi, on
Cyril
le précise.
Cyril a aussi beaucoup de pression. Il est obligé de dire, travaillant pour une structure lébadique, que Fribourg et Lausanne vont aller en championnat, donc en play-off.
Daniel, c'est la fin de saison pour la première équipe, mais pas pour toutes les équipes du HC Bienne. Hein. Les adultes, j'ai envie de dire, eux, ils ont les vacances, ils sont partis à Madrid entre dimanche et mardi, mais il y a encore les M20 et les M17, notamment, qui disputent les demi-finales des playoffs. Mieux, les M20 se sont qualifiés pour la finale hier soir, mercredi soir, en battant 3-0, 3 manches à 0 Fribourg. La relève est là, ça fait plaisir?
Oui, beaucoup de plaisir. Déjà, les dernières années, je pense la saison dernière, le moins 17 qui a gagné le championnat. Donc on connaît très bien Fleurier et puis on est prêt pour le week-end prochain pour faire le final des moins 20.
C'est un week-end entier à Fleurier pour la finale et ce sera bien contre Ambry ou Zoug.
Oui.
Exact. Et les M17, pour l'instant, ils perdent 2-1 dans la série face à Zurich. Encore un espoir quand même.
Une espoir parce que c'est vraiment la constellation idéale de aller avec deux équipes à Fleurier.
On le rappelle, le capitaine des M20, c'est Nico Steinegger, le fils de Martin. Et à l'aile, on retrouve aussi Jamie Villard, le fils de Daniel Villard. T'as forcément, du coup, regardé tous ces matchs?
J'ai pas vu tout, mais beaucoup. Hein. C'était vraiment un championnat impressionnant parce que la saison dernière, les moins 20 ont eu beaucoup de problèmes. Et puis maintenant, on a vu avec les joueurs qui sont montés de l'équipe gagnante de la saison dernière, du moins 17, ils sont vraiment fait un step en avant.
On voit ces résultats, deux demi-finales et une finale déjà pour les M20 d'assurer. Tout roule dans le mouvement junior et vous continuez ainsi ou il y a des grands projets, des grands chantiers en cours?
Non, pas des chantiers, mais des projets pour faire encore mieux en futur. C'est clair, il y a toujours des petits projets qui sont là, salle de force qui est un train de... Ouais, qu'on veut un peu... optimiser, et puis aussi des autres idées. On a un ou deux changements du staff des entraîneurs, mais sinon ça va très bien, oui.
On est à environ 30 minutes d'épisode, on va basculer sur les finances. Deux matchs de play-in, deux matchs de play-off, ça fait 4 matchs d'après-saison. Vous en aviez inscrit 2 au budget, donc financièrement, on se dirige vers une bonne saison?
Oui, je pense. On ne connaît pas encore tous les chiffres, c'est clair. Mais il faut dire que vraiment, niveau spectateur, c'était une saison extraordinaire. On a eu 15 fois guichet fermé, c'est record. Presque 100% pleine. Alors, 97%, je pense que c'était... Ouais. La chiffre. Et
exactement.
Puis aussi au niveau du sponsoring, là, on a presque vendu tous les surfaces. Niveau donateur, beaucoup des nouveaux donateurs après la saison dernière. Alors, niveau finance, oui, c'était aussi très bien.
Ouais, tu l'as dit, 97%, plus de 6200 spectateurs en moyenne. C'était 5800 la saison dernière. Pour la deuxième fois de son histoire, du coup, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 18 millions, tu penses?
Oui, c'est possible. Comme j'ai dit, je connais pas encore tous les détails, mais c'est vraiment possible. Ouais. C'est clair, la saison dernière avec les finales, c'était encore plus, mais on verra ce qui donne maintenant avec aussi cette saison encore en Champions Hockey League.
Justement, alors moi, c'est un petit message aux fans et autres du HCBN. Mettez plein de mots positifs sur Petri Matikainen, que ça tourne en boucle, parce que tant que ce Matikainen n'a pas trouvé de nouvel employeur, je crois que c'est le HCBN qui doit assurer son salaire. Donc, faut faire la promotion de M. Matikainen. C'est de l'argent qui sera à disposition pour faire de très belles choses la saison prochaine. Est-ce que tu es d'accord avec ce message, Daniel Villard?
Oui, absolument, comme avant, 100% d'accord avec toi. J'espère qu'il va trouver un job, pas seulement au niveau des finances pour nous, mais aussi pour lui, parce que, comme j'ai dit, pour moi, c'est une personne très, très agréable et puis très, très professionnelle. Et j'espère vraiment qu'il trouve une nouvelle fonction pour la saison prochaine.
Puis une fois qu'il a un nouveau job, tu changes de discours ou tu diras toujours la même chose?
Non, je ne change pas.
Cette année, il y avait le salaire de Antti Turmenen encore dans les frais du HCBN. Laurent, tu l'as dit, il y aura Matikainen et Vuori. Ça représente quoi? Ça représente un demi-million sur la saison quand même au total pour l'instant, qui est gelé, qui est un peu perdu entre guillemets.
Oui, bon, Laurent, il connaît très bien. Je ne vais jamais communiquer des chiffres.
Mais forcément, vous espérez qu'il soit engagé. Mais si on regarde l'enveloppe à disposition, on se projette sur la saison prochaine. Il y a des départs majeurs, Radgeb, Kessler, Künzle, Jorun, Ishier. Il y a la retraite de Beat Forster. L'enveloppe à disposition maintenant de Martin Steinegger pour compléter l'effectif, elle est quand même assez conséquente.
Oui, c'est en principe, c'est le même budget que cette saison. C'est clair, cette saison, on a encore eu le cas de l'œuf. Et puis là, on a dû chercher Pokka comme joueur supplémentaire, mais normalement, si on compare, c'est le même budget. Ouais.
Il reste encore combien de joueurs à engager pour avoir un effectif complet?
Ouais, je pense pas trop, mais 2 ou 3, mais quand même une certaine qualité.
Bon, c'est le même budget, mais quand on voit les joueurs qui partent, comme Yannick Radger, on va dire un gros porteur hein, au niveau financier, Ishier, Kessler... c'est comme des joueurs qui s'étaient établis en National League. Il y a des jeunes qui arrivent. Je pense que l'enveloppe, elle est quand même, pour un engagement, elle est assez généreuse. J'ai lu dans notre journal...
Je suis surpris que tu connais les contrats.
J'ai lu dans le journal du Jura que tu t'attendais à engager, t'aimerais engager... On a la possibilité au HCBN d'engager un joueur étranger de qualité. J'ai lu la citation de Vincent Criblé. C'est... Tu confies un étranger de qualité.
Oui, c'était un peu... L'idée, c'est que c'est pas un joueur, un septième étranger qui joue peut-être quand quelqu'un est blessé ou malade ou suspendu. C'est vraiment un joueur qui a la qualité de jouer chaque match. Ça, c'est l'idée, oui.
On parlera pas chiffres, bien sûr.
On ne parlera pas chiffres. Si on parle pas chiffres, on regarde les départs, on les a cités. Dans les arrivées, c'est surtout des jeunes. C'est Mark Seaver en attaque, c'est le prometteur Rodwin Dionisio en défense. Johnny Kneubuller, c'est le plus expérimenté dans les arrivées. Sinon, il y aura plus de responsabilités pour des Gael Christ ou des Matteo Reinhardt. C'est prometteur, mais c'est jeune. L'objectif, en dehors des finances, ça restera quand même le top 6. Tu penses à la saison prochaine ou faudra revoir à la baisse?
C'est trop tôt de parler de ça parce qu'il faut vraiment d'abord construire l'équipe jusqu'à la fin et puis voir aussi les autres équipes pour dire est-ce que c'est possible de rester avec cette idée de jouer les premières six. Personnellement, je pense qu'il faut peut-être adapter un peu pour la saison prochaine, mais ce qu'il faut aussi dire, il reste quand même beaucoup de joueurs qui sont expérimentés chez nous. Robin Grossman, Damien Brunner, Luca Conti par exemple. Donc il a toujours des joueurs qui connaissent vraiment le jeu.
Très bien. Cyril, la base reste solide, mais quand même autour au niveau de la profondeur, ce sera jeune, reculé pour mieux sauter au final. C'est un peu ça la stratégie.
Oui, je pense que c'est aussi important qu'il y ait un petit peu du changement dans une équipe, surtout après une saison comme ça. Il y a des joueurs plus jeunes qui arrivent ou d'autres qui sont peut-être prêts à prendre davantage de responsabilités. Donc pour la concurrence et la compétitivité dans l'équipe, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que Bien quand même pourra jouer aux alentours du top 6 la saison prochaine, pour autant qu'il trouve un ou deux, je sais plus combien doivent être engagés, mais un ou deux bons étrangers, ou en tout cas des étrangers de qualité supérieure, on va dire. Mais aussi dans les discussions que j'ai eues avec des gens d'autres clubs qui m'ont dit justement qu'ils voyaient quand même Bien rester compétitif la saison prochaine et être toujours une de ces équipes qui est proche du top 6. Alors après, le top 6, ça peut impliquer 10 équipes au final, mais quand même, quoi, ça va rester quand même un bon niveau, je pense.
Je reviens sur les finances, hein. Le temps passe vite, on est gentiment déjà au bout, il reste un peu moins de 10 minutes pour l'instant. Laurent, je te donne la parole, c'est toi qui as révélé cette information. Si on reparle des finances, ça impacte le HC Bien. Tissot Arena, le contrat prolongé avec Tissot pour le naming.
Oui, oui, oui. Tu peux confirmer vocalement, Daniel ou...
Mais bien sûr, non. Non, mais c'est un dossier qui est pas dans notre priorité au club. C'est plutôt la ville de Bienne qui est responsable de signer ça. Je peux dire qu'on a eu des discussions avec Tissot parce qu'on a toujours des discussions avec notre sponsor. Pas seulement sur le naming, mais aussi pour des autres choses. Et, ils sont très contents, je pense, avec le naming right. Et puis, j'espère qu'on peut continuer, mais je peux rien confirmer. C'est vraiment la ville qui est dans le lead, là.
Alors oui, la raison, c'est la ville qui est engagée dans ce processus. Il ne faut pas oublier que même si c'est le HC Bien qui exploite la Tissot Arena, la partie hockey sur glace, c'est quand même la ville qui est propriétaire. Donc nous, citoyens biennois, qui sommes propriétaires d'infrastructures. Mais par contre, mes informations, c'est oui, ça sera fait pour 10 ans et que c'est quelque chose qui est acté, ne manque, je sais pas, peut-être que Eric Fer... peut-être avant d'aller boire l'apéro puis de partir au week-end Pascal, peut-être signer ce contrat. Eric, si tu nous entends, c'est quand tu veux.
Et ça représente quoi pour le HC Bien, principal locataire des stades, sans parler de chiffres, mais c'est un montant qui est signé avec CTS et qui est réparti équitablement entre les différents locataires, c'est ça?
Oui, c'est déjà réglé dans le vieux contrat et ça va rester, je pense, aussi quand on signe un nouveau contrat. Ça dépend dans quelle ligue le club joue. Le HC Bien aussi le foot. Et puis après, c'est très clair, réglé avec les montants. Oui.
On va rester sur le thème de la Tissot Arena. Daniel Villard, est-ce qu'on doit s'attendre à des changements au niveau de la capacité la saison prochaine? Qu'on a invité Stéphanie Meria, elle nous disait que peut-être ce trou dans les places debout pourrait être comblé à moyen terme.
Oui, c'était une idée qu'on a eue déjà la saison dernière, mais on a vu que c'est compliqué au niveau technique de trouver une solution. On est toujours en discussion avec plusieurs entreprises. Ça reste un projet, mais je peux pas confirmer pour l'instant ce qu'on peut faire pour la saison prochaine, mais ça reste ouvert.
Il y a d'autres modifications dans les places assises ou secteur visiteurs, ça ne devrait pas bouger?
Oui, on a un projet pour la Sapa Comfort Lounge, on va un peu changer le modèle là. Mais sinon, je pense pas trop des changements.
Ça avait fait beaucoup parler, ce rétrécissement du secteur visiteur. Finalement, c'était la bonne décision.
C'était vraiment la bonne décision. Et puis, je pense pour les clubs adversaires, c'est toujours très, très agréable chez nous. Et puis, on n'a pas eu une réponse ou une feedback négatif cette saison. Donc, ça reste très, très positif. On a vu beaucoup des clubs adversaires font toujours aussi des auréolas et puis ça c'est une signe de qualité pour la Tissot Arena, je pense.
On parle de fans, on parle d'ambiance, tu l'as dit, 15 fois guichet fermé, 6200 personnes en moyenne cette saison régulière, c'est le record pour Bien et la Tissot Arena. En plus du nombre, L'ambiance est à souligner, Laurent, tu le disais aussi en off. Pas une fois, les supporters ont sifflé l'équipe alors qu'il y a eu certains moments difficiles cette saison.
Ah, c'est assez exceptionnel, j'ai trouvé. Alors moi, je suis le premier à critiquer les dérapages d'ultra. Je ne suis pas fan de ces mouvances un peu extrêmes. Mais il faut reconnaître que cette année, c'était assez fou. Bien pouvait perdre à la maison en faisant un match pas terrible. Les joueurs étaient rappelés. Il y avait j'ai pas le souvenir d'avoir entendu des sifflets à part pour les arbitres. Mais ça, je pense que Daniel les acceptera volontiers. Je trouve que c'était une des plus belles saisons du HCBN au niveau de l'ambiance. Mais je pense que l'année passée, ça a créé quelque chose aussi. Aussi des nouveaux fans qui sont venus, qui ont pris des abonnements. Qui ont vécu une saison très positive, qui était sur cette dynamique-là. Puis je pense qu'on pardonne peut-être un peu plus facilement une équipe parce que l'équipe s'est toujours donnée. Il y a eu plein de circonstances, on en a parlé encore et encore, plein de circonstances qui ont fait que ça fonctionnait pas, mais l'effort était là. Donc je trouve le public, moi je dis chapeau au public au public biennois. Franchement, cette saison, c'est un des plus beaux publics de Suisse, quoi. Je pense que Daniel Villard sera une nouvelle fois 100% d'accord avec moi.
Oui, absolument. Je pense que le public a compris que c'est une saison un peu compliquée pour l'équipe. Et puis, c'était vraiment fantastique. Donc, Tribune Sud a fait vraiment un job exceptionnel. J'ai aussi dit déjà, quand on a fait meeting avec les fans une fois, mais aussi tous les autres spectateurs, c'était toujours positif. Comme tu as dit, pas de sifflet, ni rien du tout. Et puis, vraiment une bonne ambiance, même aussi le dernier match qu'on a vraiment eu beaucoup de problèmes sur la glace, mais c'était fantastique.
Bien voilà, Daniel, on arrive gentiment déjà au bout de cet épisode, le dernier épisode officiel de la saison. À quoi va ressembler tes prochains mois, tes prochaines semaines? Encore bien rempli, beaucoup de dossiers à régler.
Oui, c'est clair, après la saison, il faut vraiment encore faire le bilan dans tous les domaines. Niveau administratif, beaucoup de choses encore à régler. Et puis surtout maintenant, la question de l'entraîneur qui est encore ouvert. Alors, ça reste encore. Et puis en mai, je pense que c'est un peu le temps de faire aussi les vacances.
Et en juin, d'organiser un public viewing sur la terrasse du Cécile.
Oui, là, on a déjà commencé. Ouais.
C'est vrai, le Cécile, c'est l'acquisition de l'année pour HCBN Gastro. Vous avez le Palace, le Cécile. Nouvelle acquisition cet été ou vous en resterez là?
Non, ça reste comme ça. Je pense qu'on a pris seulement le Cécile parce que c'est très proche du Palace. Et on peut faire une collaboration entre les deux locaux. Et puis, ça, c'était un peu l'idée, mais pas d'agrandir encore avec des autres restaurant.
Et le Cécile est très proche du secrétariat de HCBN, surtout.
Oui, ça aussi. Oui.
Et alors, juste une question que les fans se posent peut-être au niveau de la relation entre le HCBN Gastro, qui gère du coup le Palace et le Cécile, et le sportif. Quelle relation? Les éventuels bénéfices sont réinjectés dans le sportif? C'est complètement séparé?
Non, à la fin, le HCBN, c'est une holding. Et puis, on essaie dans tous les domaines faire le business si bon que possible, et puis chaque possibilité de faire de l'argent, ça nous aide de l'investir dans le mouvement junior ou aussi dans la première équipe.
Donc en allant suivre les matchs de l'Euro sur la terrasse du Cécile, on finance peut-être le prochain étranger du HCBN.
Oui, absolument, oui.
Oh là là, voilà. L'équipe de Suisse, c'est ça que
ouais, l'équipe de Suisse qui fera peut-être pas long feu, ça on le verra à l'Euro. Puis Schalke nous le fire, ça se passe bien?
Non, ça c'est vraiment un peu le problème pour moi cette saison. C'est très très compliqué, encore plus compliqué qu'au HCBN. J'espère qu'ils ne vont pas descendre au 3e ligue là. Ouais, mais c'est dur.
On aura terminé sur l'Euro et Schalke nous le fire. On aura parlé de football aussi. Je suis désolé. Mais on était sur le thème football. On aura parlé de tout durant cet épisode, de play-in, de play-off, de CHL. Messieurs, encore une question pour Daniel où on clôt ce dernier épisode de la saison, ce premier épisode. Première saison à passer sur RGB, Cyril.
Oui, ma question, est-ce que tu peux rapidement expliquer comment, à quoi ressemble le processus pour engager un nouvel entraîneur qui prend la décision finale, comment vous allez traiter ça en quelques mots, bien sûr.
Oui, absolument. Je pense d'abord, il faut vraiment définir le profil, et puis ça on va faire ensemble, donc le directeur sportif, le conseil d'administration et moi, et puis après on regarde les dossiers qui sont là. Peut-être il faut aussi contacter un ou deux candidates qui n'ont pas déposé leur dossier chez nous. Et après, on fait un shortlist avec, je ne sais pas, 3 ou 4 ou 5. Et puis là, on va les inviter, faire des interviews. Et puis après, on va aussi ensemble faire la décision. C'est toujours une décision en groupe, mais jamais une personne seule qui décide.
Claire et précis. Laurent, toi aussi, tu as une dernière question?
Ah non, une question si brillante pour terminer. Alors, je crois qu'on va... on va arriver là, je crois que tu arrives au bout. Hein, maintenant.
On arrive au bout, on est à 45 minutes d'épisode, c'est parfait. Merci beaucoup Daniel.
Merci pour l'invitation.
Merci Laurent, merci Cyril. On se retrouve peut-être pour encore un épisode bonus dans quelques temps. En tout cas, on a 2-3 surprises encore.
C'est quand Steinegger sera revenu de son île.
Exactement. Voilà. On a 2-3 surprises encore pour vous qui nous écoutez. Suivez-nous évidemment, abonnez-vous sur Spotify, suivez-nous sur Instagram et les différents réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Bye bye.
Ciao tout le monde.
Salut tout le monde, merci.
Ciao, ciao.
C'était l'HTAMTICH, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.